Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est dimanche matin, on est bien calé. Là, il commence à faire chaud de nouveau après une semaine bien de merde. Et pour terminer une semaine, rien de tel que le Hoop Culture. Et le Hoop Culture cette semaine, et bah, comme chaque semaine, c'est Théo qui est là avec moi. Comment ça va, Théo?
Bah écoute, ça va très bien, Pierre. Ça va d'autant mieux qu'on a enfin bouclé notre dernier numéro de Rivers. Donc voilà, si mes cernes touchent le sol et que je suis à côté de la plaque aujourd'hui dans ce qu'on va raconter, vous inquiétez pas, c'est qu'on a bouclé le dernier numéro de Rivers. Et bah, vous l'avez certainement vu sur Basket Session, mais je vous le montre quand même sur mon t-shirt. Défense comme en playoff. On a bouclé donc la réédition de notre MOOC 2 spécial défense en rajoutant plus de 130 pages si je me trompe pas. Voilà, c'est disponible sur Basket Session. Pierre, t'es bien au courant de tout ce qu'on a tramé depuis plusieurs mois. Et puis on va pouvoir en parler avec un invité. Est-ce qu'on a un invité cette semaine, Pierre?
Ah ouais, un invité de marque, c'est certainement la personne que tu vois le plus dans ta semaine, encore plus que ta femme ou ton mari. C'est la voix que tu entends même quand tu dors, tellement elle ne te lâche jamais. En tout cas, on est très très heureux, même si cet homme-là n'a qu'un seul petit défaut. Il connaît le roster de toutes les équipes qu'il peut réciter par cœur, mais il n'arrive pas à dire trois fois de suite Caitlin Clark, parce que ça lui est très très difficile. Mais on est ravis d'avoir Antoine avec nous cette semaine. Salut Antoine.
Salut les gars, honoré d'être dans le podcast. Merci de m'accueillir, de me recevoir.
Tu viens de faire officiellement un grand chelem, c'est-à-dire les 7 jours de la semaine sur le podcast Basket Session.
Ah ouais, je pense que Shai, lui, il doit être sur 360. Non, ça marche pas. 360 jours sur 365, si ça marche.
Il faut arrêter de parler de Shai comme ça. Attends, ouais. Il a pris des vacances pour la première fois depuis 1982, donc maintenant ça compte plus. Là, le côté Iron Man, Iron Shai, là, c'est fini ça.
À la base, il attendait le prochain titre de l'OM. Mais bon, il s'est dit non, d'un moment.
Mais on lui a dit l'autre jour d'arrêter de supporter les équipes en bleu et blanc, parce que sinon c'est vacances à chaque fois, mois de mai, et ça va pas être possible.
Moi, je vois que ça part direct, ça tire à balles réelles. Antoine, on est ravis de te retrouver en tout cas dans cet épisode de Hoop Culture. Donc, t'es le deuxième invité. Attention, honneur lourd à porter, lourde tâche. Donc, comme je disais tout à l'heure, ouais, voilà, on a réédité donc avec Antoine et puis Pierre aussi. On a bossé d'arrache-pied là sur cette réédition du MOOC Rivers numéro 2 spécial défense. Vous pouvez le trouver sur Basket Session. C'est une réédition premium, donc en format étendu, encore plus qualitatif que d'habitude. Vous savez que c'est en édition limitée, donc voilà, ne tardez pas trop, parce que les dernières fois c'est parti assez vite, notamment le New York et le numéro sur Los Angeles sont vite partis. Donc ce numéro spécial défense est disponible. Antoine, je te pose une petite question comme ça pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire sur qui tu as bossé? Alors, tu avais déjà bossé sur la version originelle de Smoke Rivers. Tu peux nous dire sur qui tu as travaillé sur ce numéro?
Parce que déjà sur la version originelle, je ne me souviens pas, ça sache-le, c'est un fait. Par contre, sur la nouvelle version, ça va, c'est encore suffisamment frais. C'était sur Rudy Gobert, un portrait, j'allais dire un beau portrait, c'est peut-être pas à moi de juger, mais j'ai bien aimé mon papier. Un portrait de Rudy Gobert, et notamment évidemment autour de sa défense, mais paradoxalement, dont le premier atout, je pense, de Rudy Gobert en défense n'est pas celui qu'on croit. Pas forcément sa taille ou son corps, et voilà, ça tourne autour de ça, et notamment, bah, du coup, spoiler de son QI basket défensif, avec, en plus, j'ai eu la chance, pour le coup, de m'entretenir avec Rudy Gobert. On a parlé défense, on a parlé de lui, et non, c'était très intéressant. Je pense qu'on en apprend un peu sur l'homme, en fait. Même, ouais, on en apprend sur l'homme, pas qu'un peu, on en apprend sur l'homme qu'il est, et quelque part, quand tu connais l'homme, ça t'aide à connaître le joueur, donc ça va ensemble, je dirais.
Absolument, moi je confirme. Très beau portrait illustré de main de maître. Je vous laisserai découvrir les visuels. Vous pouvez les voir certainement sur Basket Session. On a commencé à montrer quelques images, mais on pourra en reparler bientôt, Antoine, de toute façon. Mais ouais, très beau portrait de Rudy Gobert. Et effectivement, tu le dis, qu'il nous a accordé du temps. C'était juste avant les playoffs, mais voilà, il nous a accordé du temps pour se dévoiler un petit peu. Effectivement, je pense que ce qui est bien dans ton papier, au-delà des aspects purement qui sont dans la thématique sur la défense, c'est sur du côté personnel, sa vision des choses. C'est un mec qui est quand même assez discret, c'est pas toujours facile de lui faire dire, comment dire, de mettre en valeur les choses qu'il pense et son mode de pensée. Et je trouvais que dans ton papier, on le voyait très bien. Donc voilà, moi je me suis régalé en tout cas en le lisant en toute honnêteté.
Ah, merci beaucoup. Je pense que c'est un mec qui se méfie, en fait, qui de base, pardon, ça me permet de rebondir du coup sur Gobert. Je pense que c'est quelqu'un qui se méfie un peu de ce que l'opinion publique peut avoir de lui ou de ce que les gens vont penser de lui si vraiment il montre qui il est. Et je pense que c'est quelque part un sentiment humain, tu vois. C'est pas toujours simple. On peut parfois, je sais pas, avoir peur de se dire non, mais ça, si je raconte ça, les gens, ils en ont rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils vont s'embêter? Je leur parle de mes goûts ou de ceci ou de cela. Et je pense que c'est un peu un truc chez Gobert. Et là, il essaye de se mettre un peu en avant aussi, lui, en tant qu'homme, parce qu'il mûrit et il grandit. Et là, il est devenu papa après tout aussi. Donc, voilà.
Carrément, Pierre, quoi de neuf?
Moi, tu me demandes pas sur qui j'ai écrit dans le dernier MOOC.
Ben si, on sent les rageux là. On voit bien les mecs qui ont fait des papiers sur les meilleurs défenseurs français. Ils sont rageux, ils sont taqués quoi.
Allez-y. J'ai fait un papier sur l'interdiction pour les gens de crier défense, défense, comme tu as dit tout à l'heure, parce qu'il faut dire defense, defense. Donc déjà, c'est un petit peu une caractéristique qu'on aurait pu retrouver là-dedans, dont on va parler longuement d'ici quelques instants. Mais non, je plaisante. Moi, j'ai écrit un papier sur Joakim Noah. Alors, j'ai pas eu le plaisir de m'entretenir avec lui parce que ça avait été fait il y a peu de temps avec la Team Rivers, puisqu'il avait été le rédacteur en chef exceptionnel du MOOC sur Chicago. Donc, j'ai pas eu ce plaisir, mais j'ai eu un grand, grand, grand plaisir à écouter à peu près une quinzaine de podcasts, tous aussi lunaires les uns que les autres, où il était reçu par JJ Redick, par All the Smoke, par Knuckleheads, par toute cette bande qui cherchait à avoir la petite anecdote qui allait bien. Et il ne faut pas vraiment chercher Joakim Noah à ce niveau-là, parce que c'est vraiment, s'il y en a un qui n'est pas forcément soucieux de son image, comme peut l'être Rudy Gobert, parce qu'il a ce déficit d'amour totalement injustifié de la part des gens, Joakim Noah, lui, la seule chose qu'il essayait de faire, surtout, c'est d'exister en tant que tel, en tant que Noah, et pas en tant que fils d'eux. Et c'est quelque chose qui a drivé un petit peu toute sa carrière, et c'est un personnage haut en couleur et éminemment attachant et passionnant, un petit peu comme Rudy, j'imagine. Antoine, quand tu as dû lui parler, ça doit être totalement différent d'avoir ce type de personnage tant décrié, ou qui a une c'est pas une fast base, une fan base, mais une head base qui est complètement folle. T'as l'impression que tu vas trouver un mec peroxydé pleurant dans sa chambre en train de dire leave Rudy alone, un truc comme ça. Et du coup ça en devient risible. Et même les médias, les comptes Instagram qui ont l'habitude de troller et tout après le fameux match de Jokic sur ses 40 points où ça a été une masterclass pratiquement jamais vue dans l'histoire de la Ligue. Même eux ont dit, mais attendez, foutez-lui la paix, quoi. Personne ne peut rien faire là-dessus. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait enfin un peu une prise de... un positionnement un petit peu où on lui fout la paix, parce que, il doit en avoir ras-le-bol. Le mec se gratte l'œil, fait ça, on lui met 75 000 parce qu'on dit qu'il pleure. Si maintenant, il a un doigt qui gratte, il va faire ça, on va dire que tout le monde est acheté. Enfin bon, ça devient... Donc j'imagine que ça devait être passionnant et j'ai hâte de lire ce papier. Et juste pour préciser, il y a trois versions du MOOC qui vont donc sortir, trois versions premium. La dernière pour la modique somme de 2 200 €, avec un poster
un poster de Pierre Armand
avec un poster avec un poster et des sneakers et une carte collector en platine. Non, mais il y a trois belles versions comme ça avait été fait pour le MOOC de New York, avec donc la lithographie de la merveilleuse cover et une pochette cartonnée avec des cartes, des stickers inédits. Voilà, c'est comme d'habitude, tout ça est aux petits oignons pour vous.
Sur Gobert d'ailleurs, je rajoute un truc, parce que c'est vrai que tu dis sans doute beaucoup, c'est très sympa quand tu lui parles, et pour le coup Gobert, j'ai la chance de alors pas de le connaître, mais de l'avoir fréquenté depuis longtemps. On avait fait un blog ensemble il y a 9 ans maintenant. Donc ça
date, c'était pendant l'Euro, là.
Exactement.
L'Euro 2015,
et
là.
Même un peu avant, du coup, en fait. Donc, bien sûr que je ne le connais pas personnellement, mais j'ai pu avoir un peu plus d'échanges avec lui que d'autres joueurs ou que d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est un mec vraiment très sympa, pour le coup, très cool, très chill. Je sais pas, j'ai l'impression que certains lui reprochent le trouvent hautain, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il a une confiance en lui très marquée, et que des fois ça, c'est peut-être que ça sort d'une certaine manière, mais non, vraiment vraiment très très cool. J'ai eu la chance de jouer à FIFA avec lui voilà, sur la play dans une des chambres de l'INSEP. Donc, c'était plutôt cool quand même. mais non, non, et vraiment, c'est un mec qui a l'air vraiment sympa en tout cas.
T'avais pris l'Allemagne ou pas, Antoine?
Je me souviens plus du tout. Je pense que c'était un Noël PSG là, de mémoire, mais pas certain à 100%.
Le mec se rappelle l'équipe de FIFA il y a 9 ans, mais il se rappelle pas ce qu'il a fait dans le MOOC Defense il y a 2 ans. Quoi. C'est quand même incroyable.
moi, je jette pas la pierre. Tu sais, il y a ce côté un petit peu le syndrome de Stockholm là, quand tu sors de bouclage. Tu te rappelles c'est plus ça. De rien. Tu es juste prêt à dire oui, à tout ce qu'on te dit, mais c'est tout. Quoi.
Et c'est intéressant que tu parles de l'Allemagne parce que finalement, Antoine, c'est vraiment le consultant à l'allemande. C'est-à-dire, quel que soit le débat et les arguments, c'est lui qui gagne à la fin, tu vois. Donc, il n'y a rien à faire.
Parce que ça s'appelle la mauvaise foi. Il faut être de mauvaise foi pour gagner un débat. Ou sinon, tu fais des pronostics, tu donnes 15 pronostics différents. Tu te dis, bon, il y a un moment, ça va tomber, ça sera le bon truc. Et je dirais, ça, je vous l'avais dit, ça, les gars.
Exactement.
Bon, on va peut-être te demander ce qu'on avait demandé à Shai, la première question qu'on lui avait posée, parce que les gens sont ravis de voir que tu connais un petit peu mieux Rudy Gobert et que tu connais l'homme, mais nous on connaît l'homme de médias Antoine Pimel, mais on a un petit peu envie de te connaître un peu plus avant et savoir comment tu es venu à cette passion qu'est le basket, à quel moment ça rentre dans ta tête pour ne plus jamais en sortir, et surtout à quel moment tu te dis tiens, je vais en faire un métier et intégrer cette merveilleuse famille qui est Rivers.
Alors c'était pas mon tout premier sport, le basket. Moi, je suis né en 89, donc la Coupe du Monde 98, je l'ai pris comme beaucoup de petits de mon âge, en pleine tête, et j'étais un énorme fan de foot. J'ai d'abord été un énorme fan de foot. Et à 9 ans, j'ai voulu donc faire un sport co. Mais paradoxalement, c'est fou, je me souviens du moment, le trajet dans la voiture où j'ai dit à ma mère, j'ai pas envie de faire du foot, j'ai envie de faire du basket. Mes deux parents ont joué au basket. Je ne connaissais absolument pas le basket, mais mes deux parents ont joué. Je ne sais même pas dans quelles conditions je savais, mais je savais que mes deux parents avaient joué au basket. Et du coup, j'ai dit, je vais faire du basket. Et à partir de là, comme je voulais faire du basket, j'ai voulu m'intéresser au basket parce que je m'intéressais énormément au foot. C'est-à-dire que j'aimais jouer au foot à l'école. J'adorais le foot, j'adorais regarder du foot. Mais du coup, j'adorais aussi tout savoir sur le foot. Je me souviens que je lisais France Football très, 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 très jeune, je pense. Ça devait pas faire très, très longtemps. Ça devait faire quoi, quelques années que je savais lire et je lisais déjà France Football.
On touche au traumatisme profond de l'enfance, là.
Ouais. Et du coup, comme je voulais m'intéresser au basket, je voulais lire sur du basket, et je me souviens avoir acheté un Mondial Basket sur la saison juste après le titre des Spurs. Donc c'était la présentation de la saison 99-2000, et c'était leur guide de présentation avec les 30 équipes, des mots sur tous les joueurs, un peu ce qui s'était passé le truc avant, etc. Et à partir de là, j'ai jamais arrêté. À partir de là, j'ai commencé à lire, à m'intéresser à toutes les équipes, à vouloir suivre absolument. Il faut savoir qu'en 2000, quand tu as 11 ans, c'est quand même compliqué de suivre la NBA. J'étais encore en parallèle à fond sur le foot, mais ouais, le basket a pris une place et n'est jamais vraiment ressorti. Et pour à quel moment j'ai voulu intégrer l'équipe Rivers ? Alors, plutôt à quel moment j'ai très vite su, je pense, que je voulais être journaliste. Journaliste de sport. Encore une fois, c'était peut-être encore le foot qui prenait le dessus. Mais en grandissant, finalement, le basket est devenu tellement mon sport. J'y jouais, je suivais la NBA à fond. Donc, c'était logique, quelque part, que je me tourne vers le basket. Et Basket Session m'a pris en stage. Ça a été la grosse différence avec plein de médias. C'est que je me souviens, par exemple, notamment pour le foot, avoir été invité dans les bureaux de Canal, parce que j'ai déposé une demande de stage où Lana m'avait dit « Franchement, ton profil est super intéressant ». Après, peut-être qu'elle m'avait saucé et que c'était hypocrite. Enfin, elle avait l'air sincère, tu vois. Elle m'avait l'air d'apprécier mon profil, mais elle m'a dit « Mais là, j'ai le fils d'un tel j'ai qu'une place et j'ai le fils d'un tel ». Donc, elle m'avait fait venir littéralement juste pour me dire de m'accrocher et de continuer parce qu'elle aimait bien mon profil, mais je n'étais pas pris, tu vois, grosso modo. Et donc, Basket Session m'avait pris en stage. Et pareil, un peu comme le goût du basket, je n'ai pas bougé depuis. Donc, ça fait depuis… Mon stage, c'était en 2013, donc ça fait 11 ans. Et je suis officiellement chez BS dans l'équipe vraiment depuis 2014, donc ça fait 10 ans maintenant.
Ah, c'est chaud. Bah, franchement, je vais dire quelques mots sur Antoine le stagiaire quand même, parce qu'effectivement, on n'en a pas eu 50 000 des stagiaires, mais on a eu de la chance d'en avoir plutôt des bons. Mais blague à part, en fait, ce qui était chouette avec Antoine, même quand il était en stage, c'est qu'on sentait qu'il avait il avait un vrai goût de l'écriture et de la formule. Et je me rappelle notamment, alors je me rappelle plus du sujet, j'essaie de me rappeler avant qu'on commence le podcast, mais j'ai pas retrouvé le premier article qu'il avait écrit pour Rivers, parce qu'en fait c'est quand même différent d'écrire pour Basket Session. Alors c'était qui, vas-y, redis-nous.
Ça je m'en souviens, tu vois, pour le coup je me souviens pas des MOOC, Jalil Okafor.
Voilà, ok, bah voilà, très bien. Et en fait, je me rappelle vraiment des allers-retours, parce qu'en fait, c'est un peu différent d'écrire pour Basket Session et d'écrire pour le MOOC Rivers. Enfin, à l'époque, c'était pas encore le MOOC, mais il y avait déjà la même volonté d'écrire des articles un peu intemporels avec un style plus affirmé. Et je me rappelle que sur les premières moutures, on avait fait quelques allers-retours, Antoine et moi, il m'envoyait sa version, je renvoyais et je lui disais ce qui, à mon sens, pouvait manquer. Je sentais un peu timide dans le fait d'assumer son écriture, de prendre plus de liberté peut-être, de se détacher un petit peu plus des repères. Et en fait, ce qui était super, c'est que voilà, il y a eu un aller-retour, un deuxième, et puis je me disais, Antoine, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se lâcher. Et puis finalement, la troisième version était la bonne, et derrière, il n'y a plus jamais eu rien à dire. Franchement, à partir de ce moment-là, Antoine, il a vraiment capté le truc. Et voilà, je pense que si vous lisez un article d'Antoine, vous voyez, ça a de la personnalité, il y a une écriture, il y a toujours un angle. Et ça a été très facile. Et c'est vrai que cette chose-là, tout le monde ne le comprend pas, ou tout le monde ne le comprend pas aussi rapidement. Et finalement, je reviens là-dessus, une fois qu'Antoine a compris le truc, bah derrière, voilà, c'était...
Ah, merci.
C'est un super journaliste, et c'est un vrai kiff de l'avoir dans l'équipe. On est une petite équipe, si on s'entendait pas, ça serait injouable. Et voilà, des mecs comme Shai, comme Antoine, c'est vital.
Get a room.
Attends, on va se couper, Pierre. On va finir le podcast juste avec Antoine.
Est-ce que j'ai l'impression d'être, tu sais, la copine moche, tu sais, sur le côté qui avec les deux qui se tournent autour.
Jaloux, Pierre.
Est-ce que ce papier là, c'est pas celui par hasard que j'ai montré la semaine dernière, tu sais, quand j'ai sorti le reverse avec Jordan dessus, c'était pas sur un reverse avec Jordan en couverture?
Ben, c'est possible, hein, parce que c'était à peu près cette période là, c'était le numéro 40 que t'avais sorti, je crois, Pierre, là, le nouvelle formule, etc.
Celui avec Jordan, ouais, sur la toute nouvelle formule, la nouvelle mise en page. Et il me semble, il faudrait que j'aille le rechercher là.
Toi, tu parles sur le 40 avec Jordan, c'est pas un papier croisé Jabari Parker, Jalil Okafor, c'est celui-là aussi, c'est moi qui l'ai écrit.
Ah, c'était peut-être Jabari Parker, alors peut-être c'était ça.
Moi, je suis arrivé un peu avant, je pense. Mais celui-là, ça me dit, tu sais que j'ai aussi écrit ça, un papier croisé sur les deux mecs de Chicago, les deux jeunes de Chicago, Parker et Okafor, qui étaient censés. Prendre la ligue d'assaut, quoi. Ça a mal fini cette histoire.
Ils ont pris la ligue, mais pas la bonne, quoi. Il y en a un, c'est en Euroleague, et l'autre, je sais plus où il est. Jalil Okafor, je crois qu'il est
en Ligue Magnus.
Ou un truc comme ça, je...
En Ligue Magnus. Ah, mince.
En tout cas, Antoine, on est ravis de te recevoir, parce qu'on parle beaucoup des MOOC à chaque fois, mais s'il y a une dénomination commune à Jabari Parker et à Jalil Okafor, c'est ce titre qui est Une saison en enfer. Ce bouquin que tu as écrit donc avec toute la bienveillance, j'ai envie de dire, et la collaboration de toute l'équipe de Rivers. Que tu donc qui est sorti en fin d'année dernière, il me semble, et qui raconte donc notre histoire un petit peu à tous en tant que basketteur, en tout cas en tant que basketteur de club, essentiellement, avec nos envies, nos plaisirs et nos cauchemars, surtout des cauchemars, comme le dit le titre. Deux questions qui n'en font qu'une. Comment tu as eu envie d'écrire ce livre? À quel moment tu t'es dit j'ai envie de raconter un petit peu tes souvenirs et tes expériences? Et combien de temps il t'a fallu surtout pour recouper et regrouper toutes ces listes aussi improbables les unes que les autres de moments aussi délicieux que terribles?
Alors, comment c'est venu en plusieurs étapes? Ça faisait un moment que j'avais envie que sur Basket Session, on fasse un truc. Je me souviens, on avait même trouvé un nom de rubrique. C'était censé s'appeler les chroniques du terre-terre. Et on voulait un peu raconter certains trucs qui se passent sur les terrains, des trucs aberrants que tu peux voir des fois au niveau amateur où tu dis mais pourquoi, tu vois, ça n'a aucun sens. Comment on se retrouve dans cette situation? Et au tel point où tu vois, où sur le coup, t'es vénère, t'es frustré. Et après, avec le recul, tu te dis, mais attends, c'est trop marrant ou c'est trop dingue pour pas être raconté. Et on voulait raconter ça. Donc à la base, ça devait être sur le site. Ce qui s'est passé, pour être très honnête, il y a quand même une fois, il y a un pote à moi qui est, je sais plus s'il est venu chez moi ou je suis allé chez lui, peu importe, mais il avait le livre Dans la Musette. Lui, c'est un fan de vélo. Et il avait ce livre Dans la Musette où le mec raconte, le gars dans la Musette, il raconte un peu ce que ça fait d'être cycliste amateur. Et je me suis dit, putain, mais grosso modo, ça part en plagiat là. Hein. Je le conçois volontairement. Donc, il y a eu une vraie inspiration, c'est de se dire, non, mais en fait, c'est ça, faut pas en faire un truc internet, faut en faire un bouquin. Mais sauf que la différence, c'est qu'après, en discutant entre nous dans l'équipe, on s'est dit, mais ça peut être aussi, on réfléchissait à l'angle d'attaque, tu vois, il y avait plusieurs idées. Est-ce qu'on fait comme si c'était un crew de télévision qui suivait une équipe de basket? On a repensé aussi, il y a eu, je sais pas si vous connaissez cette série, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder. C'est sur la pire équipe belge de tous les temps de foot. C'est absolument mémorable et il faut aller regarder. C'est sur YouTube. Je sais plus comment vous pouvez le taper, mais vous tapez sans doute la pire équipe amateur belge de football. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on fait pareil, mais à l'écrit? Tu vois, on raconte une équipe complètement nulle. Et au final, on est venu plus ou moins à cette histoire de se dire, bon, on va faire une fiction, on va essayer de raconter une histoire. Et en combien de temps je l'ai écrit? Alors, je ne l'ai pas écrit tout seul, hein, d'ailleurs. Oui, au passage, j'ai bien fait de le préciser. On dit jeu, mais je n'ai clairement pas écrit tout seul le livre. Mais c'est allé très, très vite, par contre. Ça s'est passé très, très vite parce que déjà, il y avait un MOOC à écrire en même temps. C'était en plein été. Je pense qu'on s'est arrêté sur l'idée quelque part, peut-être au mois de juin. Après, il y a juillet, août. C'est quand même les grandes vacances, quoi, on ne va pas se mentir. Même s'il y a du boulot, on n'a pas 2 mois de vacances. Mais c'est forcément un peu plus relax une fois qu'il y a d'abord la free agency et après c'est un peu plus relax. Et il y avait un MOOC à faire. Donc grosso modo, c'est plus ou moins en septembre vraiment que ça a commencé et fallait finir vite parce que comme tu l'as dit, il est sorti à la fin de l'année. Donc fallait forcément envoyer avant les fichiers. Donc je pense qu'en 2 mois, grosso modo, on a envoyé. En deux mois à peu près, l'histoire, je pense que je l'ai écrite.
Parce que si vous ne l'avez pas eu entre les mains, ce livre, donc, qui s'appelle Une saison en enfer, en gros, il y a différentes parties, mais le fil rouge, finalement, c'est vraiment la saison d'un basketteur amateur qui rêve de gloire. Alors, à son niveau très amateur, en gros, il rêve de monter, ils sont en départ, il rêve de monter au niveau supérieur. Et on suit un petit peu l'évolution de sa saison et de la saison de l'équipe mois par mois. Et cette partie-là, vraiment, le storytelling, ça, c'est vraiment Antoine qui l'a géré de A à Z. Et c'est lui qui a vraiment piloté toute cette partie. Après, il y a tout un tas de listes ou d'anecdotes où là, on s'est un petit peu réparti la tâche. Mais c'était vraiment Antoine, qui avait eu l'idée et qui a géré toute cette partie narrative et qui pilotait finalement l'ensemble du bouquin. Mais ouais, t'as raison, parce qu'en fait on a dû boucler le numéro de Rivers et dans la foulée, à 3 semaines après, on bouclait une saison en enfer. Donc ça, on a vraiment dû enchaîner les deux et ça a été possible que parce que toi, t'as pris le lead, vraiment le leadership sur ce bouquin pour gérer la partie narrative. Et il faut dire aussi que c'est quelque chose que tu fais très bien. Sur Basket Session, pendant le Covid, Antoine avait sorti une série qui est toujours disponible. D'ailleurs, vous pouvez la trouver sur Basket Session, une série fictionnelle autour de LeBron James dans un contexte complètement apocalyptique.
NBA Apocalypse, on avait.
Merci. NBA Apocalypse, voilà. Nous, on se régalait, on était en plein Covid. Antoine, il sortait un épisode par semaine. On était tous éclatés de rire juste en le lisant nous-mêmes. Donc voilà, faut regarder, t'as un vrai talent pour l'écriture, pour raconter des histoires. Donc c'était encore, je trouve, c'est chouette parce que c'était une autre manière pour toi encore de travailler cet angle-là, quoi.
Ouais, j'aimais bien déjà faire les fausses interviews, ça me faisait toujours marrer. En fait, j'aime bien caricaturer certaines personnalités, certains traits de caractère, certains personnages, j'aime bien créer des personnages. LeBron James, c'est une immense source d'inspiration pour moi à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'était le personnage principal d'NBA Apocalypse, parce que ça me faisait toujours marrer de me moquer de LeBron, mais avec une forme d'affection. Et oui, là, du coup, oui, je pouvais me faire plaisir, je veux dire. Faut l'écriture, moi j'aime ça et faut que ça soit. J'aime bien quand c'est marrant, mais pas juste drôle en fait. J'aime bien quand tu peux. Il y a un côté artistique, tu vois. C'est pour moi, c'est un truc artistique et j'aime bien aller. Même dans les anciens numéros de Rivers, il y a quelques trucs. Je me souviens au tout début, j'aimais bien prendre vraiment un thème. Par exemple, je me souviens d'un papier sur Anthony Davis. Je me souviens parce qu'à l'époque, je regardais Resident Evil. J'étais à fond dans les films Resident Evil qui sont tous nuls. Tu vois, ils sont tous pourris. Mais je les regardais tous. Je sais pas, je les avais tous regardés. Et du coup, j'avais fait tout un papier qui était axé autour d'avec des références et le champ lexical des trucs liés à Resident Evil. Pour je sais plus quel joueur, une fois, j'avais mis le, je sais pas, genre 50 références à Booba dans un article, que ce soit des intertitres à des phases, des trucs. J'aimais bien me lancer des petits défis comme ça. Et bah, parfois, des fois, ça prend bah, ce côté-là de se dire. J'avais fait, je me souviens aussi d'un papier dans le MOOC où j'ai fait un épisode. C'est un épisode de Burger Quiz, non? C'était un papier sur Anthony Davis. Oui. Il est facile à... Dans le MOOC Los Angeles, je crois. C'est un papier
non, okay, alors, pas non c'est, alors c'était justement dans la version originale de, ah, du MOOC défense. Spécial Défense. Ah, mais bah, du coup, bah, qui, voilà, ça c'est pour ceux qui l'avaient chopé à l'époque parce qu'on n'a on a pas reproduit tous les articles. Donc cet article-là, il est que dans voilà, ceux qui ont le numéro d'origine. C'est effectivement dans le MOOC Spécial ouais. Défense, version ah, Burger ouais. Quiz avec un papier sur Anthony Davis succulent. Donc,
des trucs qui ont parfois plus ou moins aucun sens. Et si des fois, en plus, j'arrive à y mettre quand même un... Enfin, je ne sais pas, que ce ne soit pas juste des conneries, mais qu'il y ait un espèce de message derrière. Alors, je n'irai pas jusqu'à prétendre que j'arrive à le faire parce que je ne le fais pas aussi bien que ce que ça pourrait être fait. Mais j'essaye, en tout cas. Voilà, j'aime bien quand ça sort un peu du cadre habituel. Pas tout le temps, mais... Quand c'est possible, quand j'ai une inspiration, ça me plaît de trouver un angle, un thème et de le développer, quoi. Et du coup, bah là, une saison en enfer, c'était parfait. C'était freestyle total, quoi.
Puis surtout, ça nous permettait de chacun de se retrouver un petit peu, puisque et de retrouver la grande caractéristique de notre sport préféré, c'est la frustration. On est bien d'accord, surtout quand on joue à faible niveau. Donc, quand on lit le bouquin où on se rend compte que les ailiers sont tous teubés, les pivots ont pas de move, les meneurs sont tous casse-couilles, etc. On se dit ouais, quand même, et puis au bout de dès qu'on a lu trois lignes, on fait peut-être ouais, c'est pas improbable. Donc j'imagine quand même toi-même, ça vient d'expérience, de c'est pas quelque chose que tu as inventé, puisque à nos niveaux à nous, en tout cas, bon, pas au niveau de Théo évidemment, mais à nos niveaux à nous, à moi, bon, allez, à mon niveau à moi, d'accord, allez, on va y aller à moi directement.
Tu peux mettre dans l'eau,
c'est quand même quelque chose. Moi, j'en ai retrouvé 98% de ma life, c'est retrouvé là-dedans, à tel point que il a fallu que je retourne dans tous les sens mon téléphone et tout pour voir si j'avais pas été sur écoute à un moment donné, tellement j'ai l'impression de voir que des citations
sous la serviette, là.
De ma
ça,
pauvre.
C'est pire, là, sous la...
Je sais pas, je peux être tout le monde là si tu veux, mais sur ça, pas tous les pas musclés en tout cas. C'est super bien vu et j'imagine que c'est la phrase qu'on a dû te sortir le plus, que c'était parfaitement bien, même pas analysé, mais parfaitement bien retranscrit.
Ouais, il y a eu pas mal de bons retours, notamment auprès justement bah, voilà, des pratiquants de basket qui ont retrouvé des situations similaires. De toute façon, c'était vraiment l'idée du bouquin. Alors, il y a évidemment pas mal de trucs perso que j'ai exagéré. J'ai pris aussi... j'ai fait comme les rappeurs, tu vois, les rappeurs qui racontent la vie de leur pote, tu vois. Non, mais c'est pas moi qui deal, en fait, c'est mon pote, tu vois. Donc, quand tu creuses, t'apprends qu'en fait, c'est pas lui. Lui, il était juste tranquille, mais il a un pote, il a le pote d'un pote, tu vois, qui lui vendait des trucs, tu vois. Donc, j'ai aussi pris des phases qui sont arrivées à mes meilleurs amis qui, pareil, jouent en club. On a pris aussi dans la rédac hein, des anecdotes de Théo, de Julien, de Guillaume, d'un peu tout le monde. Et oui, il y a pas mal de trucs perso. Il y a des trucs que j'ai imaginés aussi, mais forcément, il y a des expériences. Et je pense que c'est la beauté de ce sport. Et je dirais que même le livre, je pense que même quelqu'un qui n'a jamais fait de basket en club, mais qui a fait du sport amateur en club, un sport co en tout cas, que ce soit du hand, du foot, du volley, du rugby, ce que vous voulez. Si vous voulez faire des sports secondaires, c'est votre choix.
On avait dit qu'on s'en prenait qu'au sport individuel parce que sport co ils arrivent
ouais,
en équipe quand même.
Les rugbymen et les handballeurs ils sont balèzes, c'est quand même un peu mieux de s'attaquer aux pongistes, il y a moins de risques a priori, mais du coup ouais, je pense qu'il y a des anecdotes que tu peux retrouver dans n'importe quelle vie de groupe en fait au final, et Et c'est ce qui fait aussi la magie du sport collectif et du sport collectif amateur, c'est qu'il y a des trucs, sur le coup, tu es là, tu te dis, mais pourquoi ça se passe comme ça? Et après, tu en rigoles et tu en gardes des très bons souvenirs, la plupart du temps. Même si sur le coup, tu es très frustré. Il faut savoir qu'une saison de basket en tant qu'amateur, tu es souvent très frustré.
Mais c'est vraiment un bouquin qu'on devrait distribuer à toute personne qui, en début de chaque saison, à tout nouveau qui veut venir, tu sais, s'inscrire dans le club, en disant, tu lis ça, tu l'apprends par cœur. Et si tu te reconnais à un moment, terminé. Tu viens pas ou alors tu changes tout de suite parce qu'il y a, y a de quoi te dire, oui, c'est peut-être moi. Et sais-tu, et j'en viens donc à la question, les trois personnages, on va dire, la sainte trinité de ce podcast qui sont toi, Théo et Shai, quels seraient les personnages de ton livre où tu mettrais chacun de tes comparses? Quel personnage du MOOC serait Théo, par exemple?
Ah, bonne question, ça.
MOOC, du livre, Théo, il serait sans doute le...
Du bouquin, pardon, pas du MOOC.
Le meneur... le meneur...
Ah,
je sais même plus comment. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais dire ça comme ça. moi, forcément, le narrateur, même si le narrateur, j'ai essayé au maximum de lui donner ni poste, ni aucune indication physique, ni rien. Je pense que forcément, je m'en rapproche un peu. Shai, c'est une bonne question, tiens.
Alors, il est trop gentil pour être dans le bouquin, Shai.
Shai, c'est dur.
Il n'y a que des casse-couilles dans le livre.
Alors, vous allez vous foutre de ma gueule, je ne me souviens pas de tous les personnages.
Tu sais quoi? Non, mais attends, non, mais moi je vais te rappeler. En fait, si, tu sais, il y a deux personnages qui sont vraiment positifs.
Je me souviens pas de tous les persos. Pardon, alors,
c'est honteux parce que c'est peut-être deux des plus nuls dans le livre. Mais il y a deux personnages qui sont cool. C'est le mec de la campagne qui est vraiment tout le temps positif, en fait.
Et enfin, il est dur, quoi.
Voilà, et le mec qui est là que pour boire des bières. Là. C'est deux personnages Shai... humainement ils sont cool.
Oui, lui là.
Ouais, mais Shai au foot, à mon avis, il vient pas que pour boire des bières. Moi, je peux vous dire, j'ai joué au foot avec Shai, il y a quand même du niveau, quoi. Tu vois, c'est pas dégueulasse, quoi. Donc, tu peux pas le mettre trop dans cette catégorie.
Alors,
lui te dira que physiquement, il s'en rapproche.
Alors, le truc, c'est que ce qui est marrant, c'est que chaque personnage que tu crées, en fait, la première truc, c'est les raisons de son échec. Donc déjà, le truc, c'est mort à la base. Donc c'est tout de suite. Voilà, lui. Alors justement, on va en parler de lui après. Mais il y a quatre catégories. C'est les raisons de l'échec, les chances de le croiser un jour, le degré de handicap pour une équipe et les chances de s'en sortir un jour. Et dans le cas de Théo, où tu dis c'est le meneur, chance de le croiser un jour, 90%. Ouais. Degré de handicap pour l'équipe, 24%. Chance de s'en sortir un jour, 0. C'est le seul qui a 0. Quoi.
Ouais,
quand on
trop...
est un meneur dans sa tête, c'est pour la vie. Ceux qui raccrochent parce qu'ils ne trouvent pas leur place sur le terrain prennent souvent une plaquette pour la trouver en tête de banc.
Et qu'est-ce qu'il fait maintenant, Théo?
Il y aurait ta photo, Théo, c'est la même.
Il coach.
Je suis d'autant mieux placé pour en parler que c'est moi qui ai écrit une partie de cette rubrique. Donc c'était entièrement, ou quasiment, peut-être pas entièrement, mais une bonne partie qui était autobiographique, je reconnais.
C'est toi qui as fait le portrait du meneur casse-couille. Donc
ouais.
Clairement.
J'assume.
Et ça,
alors,
c'est...
tu montrais ces illustrations, c'est ultra bien illustré le bouquin, faut quand même le dire, avec que des personnages qu'on croise qui sont soit à moitié pétés, mais toujours, la plupart du temps, qui viennent sur un terrain en tenue de basketteur avec un maillot d'un joueur. Quel est pour vous le degré de handicap quand vous arrivez sur un terrain avec des gars que vous connaissez pas et qu'il y en a qui sont sapés entièrement NBA, et la question est la suivante: est-ce que vous préférez un gars qui a genre un full équipement, c'est-à-dire qui va arriver avec le maillot des Suns 35, le short des Suns, des chaussettes NBA et la paire de KD, ou le gars qui vient avec un maillot des Suns, un short des Bulls et des chaussettes violettes, des chaussettes purple and gold? Pour vous, le plus dangereux, c'est lequel?
C'est la taille des chaussettes, quand même, c'est quand même important. Quelle taille des chaussettes?
La taille des chaussettes.
Jusqu'au genou, là, je me dis, non, ça va être trop lourd.
Alors, j'ai pas encore parlé du. Attention, parce que je connais ton amour du bandeau, donc on va pas parler du bandeau tout de suite.
Théo, tu joues avec des grandes chaussettes
au
passage d'ailleurs.
Des trucs comme ça.
Des grandes chaussettes.
Excuse-moi, Pierre, mais juste, je veux savoir. avant de voir ce que je balance.
Ça, c'est parce qu'on a commencé à avoir des vaisseaux qui explosent. Parce qu'à notre âge, on a des vaisseaux qui ont explosé déjà et on veut pas les montrer, c'est pour ça.
Ok, non, mais oui. C'est pas pareil, c'est pour raison médicale.
On a des bas de contention en fait.
Oui, ça oui, ah, voilà. Par contre, mais oui, je joue avec des chaussettes plutôt montantes maintenant, mais pas non plus jusqu'au genou. Mais...
Ok, d'accord. Autant voilà. Pour moi, pardon Pierre, du coup je t'ai coupé. Je te laisse reprendre la question. Désolé, c'était pour savoir ce que je disais quand même, tu vois, parce que quand même Théo, je le fréquente encore après le podcast, tu vois. Je préfère prendre mes précautions, tu vois.
Des chaussettes un peu montantes qui sont donc pour moi une paire de chaussettes normale. Donc lequel est le plus dangereux, celui qui est full équipement ou celui qui est totalement dépareillé et qui on sent qu'il y connaît rien ou qui s'emballe à noix quoi.
Le plus dangereux.
En fait, lequel
dans
tu vas pas prendre dans ton équipe quoi, c'est ça. Dans le sens, t'as pas envie de jouer avec lui.
Ah non, idéal, je prends aucun des deux quand même, mais.
Moi aussi, parce que moi j'ai.
Oui, mais bon.
Pas t'as... confiance, quoi. Tu vois, je leur dis, c'est pas grave. Tu sais quoi, on va jouer à 4 contre 5.
Dans l'idéal, dans une vie idéale, le livre, il n'existe pas.
Hein. Ouais, c'est
en fait,
vrai.
Les deux profils que tu décris, Pierre, ils me font peur pour deux raisons. En fait, celui qui a tout l'équipement des Suns, je me dis, bah, lui, il va être archi nul. Mais l'autre dont tu parles, je me dis, mais lui, il doit être ultra dangereux. Donc, limite, je préfère que ce soit dans mon équipe plutôt qu'il se mette à défendre sur moi et glisser
ouais,
son pied sous le mien quand je vais partir au layup.
T'as tout à fait raison. Je pense aussi, ouais. J'ai... Lui, là, c'est un moyen, si tu joues contre lui, tu sais, c'est sans doute un ancien handballeur qui s'est mis à intéresser à la NBA. Il ne capte pas que ce n'est pas les mêmes règles en défense, parce que les handballeurs en défense sur un playground, c'est quand même un vrai problème. À un moment, il faut quand même en parler, parce que j'ai rarement vu des médias français en parler, mais c'est quand même un vrai truc. Les handballeurs sur des playgrounds, ce n'est pas le même type de défense. Non, vous n'avez pas le droit de taper. Le moment où tu entends le clac, là, ce n'est pas bon signe. Si mon bras il est rouge comme si je m'étais fait piquer par une armée de moustiques tigres, ce n'est pas bon signe. Tu vois. Donc ça, je préfère l'avoir moi dans mon équipe. Je sais qu'il va être combatif, il va être valeureux, il va aller au rebond. Et je vais le mettre sur le meilleur marqueur adverse parce que du coup, il va lui casser les couilles. Tu vois, et il y a moyen que l'autre pète un câble mentalement. Mais ouais, vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi, même s'il est nul. Et limite, tu peux instaurer la règle du « si tu veux prendre un tir, tu prends deux rebonds d'abord ». Une règle importante sur un playground. Tu vois, les mecs qui sont physiquement valeureux, mais pas forcément très talentueux, tu peux leur dire « vas-y, quand tu as pris deux rebonds, là, tu as le droit de shooter ». Ça, c'est petit tips.
Sur la notion de densité physique, là, ça me fait penser, je vous livre à une petite anecdote. J'ai participé à un tournoi de médias de basket auquel participait Daniel Narcisse. Donc légende du handball français, hyper sympa, plutôt bon basketteur, mais par contre le gap physique par rapport aux autres, c'est un truc de malade. Et tu parlais de prendre deux rebonds avant de prendre un tir, il allait chercher des rebonds en explosivité au physique. Je me suis dit, lui c'est bon gars et bon potentiel pour le basket. Et d'ailleurs à l'époque il venait d'arrêter sa carrière pro au handball, il m'a dit qu'il pensait à se mettre au basket purement en amateur pour continuer une activité sportive. Je me demande s'il l'a fait, en tout cas moi j'aurais bien pris dans mon équipe.
En tout cas, on est d'accord que la tenue NBA, alors le short, à la limite, on a le droit, mais venir avec un maillot NBA sur un terrain, c'est totalement interdit. Il y a des conventions internationales pour ça, pas souvent appliquées, mais on est bien d'accord que c'est limite éliminatoire. Quoi.
Ouais, c'est suspect, ouais. Je suis assez d'accord.
Moi je me suis reconnu dans l'abruti qui a des sneakers tout le temps et 150 paires et tout, donc j'ai pas cherché bien loin dans ce cher Brian là, donc je suis pas allé chercher très très loin. J'ai un petit peu comme lui, j'ai eu ma session de lundi là complètement gâchée parce qu'un team m'a fait une trace comme dans Do the Right Thing sur ma paire toute neuve, donc j'étais complètement dégoûté, en plus d'avoir perdu et joué comme une merde, mais ça c'est toutes les semaines. On retrouve aussi certains profils, et moi j'ai bien rigolé, surtout après, pendant les playoffs, là. Il y a une scène incroyable où l'équipe va jouer à la campagne, et il tombe sur un certain Tolik qui m'a fait penser à un certain Jokic. Évidemment, ça prend toute son ampleur aujourd'hui. Et on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Théo sur les gars insupportables qui arrivent quand on faisait les signature moves avec le Skyhook, et que c'était que des gars généralement bedonnants qui venaient en loisir avec au-delà de la cinquantaine. Et on se rend compte que c'est un petit peu ton personnage. Ouais, le voilà, incroyable, Tout le monde dit on veut pas, on veut, quand il va rentrer, on va le taffer. Personne le taffe et c'est lui qui taffe tout le monde. Quoi.
C'est marrant parce
c'est le plus
que
dangereux c'est... de tous, quoi, en fait.
C'est le seul personnage qui est directement inspiré vraiment d'un coéquipier. Alors, il y en a, c'est des mix de coéquipiers. Il y en a d'anciens coéquipiers plutôt. Là, c'est vraiment un de mes coéquipiers actuels. C'est un mec qui s'appelle Dejan. Il a 50 ans. C'est un ancien pro. Il est serbe. Il joue dans mon équipe. Il fait 2 mètres. Il, comme je t'ai dit, il a plus de 50 balais. Donc, il ne court plus, tu vois. Mais il n'a pas besoin. Et en fait, Dejan, cette année, on a perdu un seul match. C'est le match qu'il n'a pas joué. Tu vois, c'est notre seule défaite de l'année. Ça te donne un petit indice. Et ouais, à 50 piges, il nous taffe. Et pourtant, il y a quelques bons joueurs dans mon équipe. Pas forcément moi, mais il y a quelques bons joueurs dans mon équipe. Et c'est lui le. En fait, c'est lui le. Genre, notre système, on a des systèmes, mais techniquement, notre système, c'est si on est en galère, on passe la balle à Dejan et ah, t'inquiète, il va se débrouiller, tu vois. Et du coup, Dejan, ouais, voilà, c'est ça. Tu le mets au poste haut et puis bon. Il trouvera un truc. Il faut juste rester un peu autour. Il trouvera un délire. Et ouais, et Dejan, pour le coup, c'est vraiment. Là, lui, c'était directement inspiré. Il n'y avait même pas de prendre des pincettes. Bon, après, forcément, c'est un personnage. Et puis, de toute façon, il ne le lira pas. Il est serbe. mais tu vois, ouais, lui, c'est marrant. Ce personnage, c'était un petit clin d'œil plus direct.
Alors il y a aussi plein de rubriques, des facts comme tu les as appelés dans ce bouquin. Alors j'imagine que vous avez fait ça ensemble sur les pires coachs. Alors c'est des listes hilarantes là-dessus, mais on parle beaucoup de frustration, ça ne veut rien dire. Mais il y a quand même une rubrique sur les trucs les plus kiffants quand tu joues au basket. Alors il y en a plein sur le fait d'être dans la zone tu prends ta cinquième faute en démontant le mec qui ouvre sa gueule depuis le début, les retours en caisse avec les potes, etc. Quand t'as gagné, surtout. Mais moi, j'aimerais bien savoir, tous les deux, surtout à toi, Antoine, finalement, ton truc le plus kiffant quand tu joues au basket, ce serait quoi ?
C'est une très, très bonne question.
C'est une si très tu bonne dis question. Gagner en prenant
non, un non.
Ça avec une batte de baseball, j'éteins tout de suite.
Non, je suis compétiteur, mais je suis pas le maladif non plus de la victoire qui prend du plaisir qu'à travers ça. Non, je dirais, ça va sembler très bizarre comme réponse, mais je dirais les moments où j'arrive à me lâcher, en fait. Quel que soit ce qui se passe, mais les moments où j'arrive à me lâcher, parce qu'on parle de frustration, justement, moi, je suis le genre de mec qui est un peu à l'image du narrateur, qui est capable de prendre tout ça beaucoup trop à cœur, en fait, de manière individuelle, tu vois, et de... Genre, ma semaine dépend pas de si je mets 10 sur 15 à 3 points ou 3 sur 15 à 3 points, tu vois. Mais pourtant, enfin, elle devrait pas dépendre de ça, mais des fois, ça dépend de ça. Et ce qui est injuste, vu que je suis un basketteur médiocre à l'échelle quand même de ce qui peut se faire dans ce monde. Donc les moments où j'arrive à me lâcher, à me détacher tout ça, bah, finalement, c'est les moments où je prends du plaisir et du coup, c'est ça qui me fait kiffer. Après, c'est vrai que ça aide dans la victoire, mais moi, je peux pas faire le mec hypocrite. Hein. Si mon équipe elle gagne mais que je suis dégueulasse, je vais forcément garder dans un coin de ma tête que j'ai été dégueulasse et ça va me saouler, tu vois. À l'inverse, si mon équipe. Après, pardon, je fais plus long, mais j'aime jouer. J'ai quand même un vrai truc altruiste quand je joue au basket, c'est que j'aime bien défendre, par exemple. J'aime bien les moments où ça joue bien, où ça fait circuler la balle. Donc, quand je dis être dégueulasse, quand je dis être fort, c'est pas forcément avoir mis beaucoup de points, mais quand j'ai fait des trucs qui vont dans le sens de l'équipe. Donc, j'ai quand même une notion collective. Mais ouais, prendre du plaisir quand j'arrive à me lâcher, quand j'arrive à me défouler, quand j'arrive à juste me libérer et à pas être dans ma tête. Ah là, j'ai raté 3 tirs. Tu vois, là, le quatrième, c'est chaud, je le prends pas. Donc c'est un peu. Voilà, ce qui me fait plaisir, c'est vraiment ça. Quand je peux m'exprimer. Sur le terrain, du coup. Et pardon, j'y pense sur les listes, rien à voir,
toi,
mais.
Théo, ce serait quoi,
finalement ? Ah, pardon, du coup.
Non, vas-y, Antoine, et j'enchaînerai après.
Ouais, du coup, sur les listes, ça me fait penser qu'il y a quand même un président de club qui m'a contacté. Parce que tu sais, tu disais, ouais, on devrait donner le bouquin à tous les mecs qui commencent. Il y a un président de club qui m'avait quand même contacté. Je ne me souviens plus le nom du club, je suis désolé. Mais pour afficher clairement en grand. C'est un gros club au passage, mais j'ai oublié le nom. Afficher en grand la liste sur les parents sur les pires parents et voilà, le mettre en grand dans la salle en mode voilà, calmez-vous là avec vos enfants, vos projets Victor Wembanyama, votre gamin il fait 1m22, on va se calmer 2 secondes, il lui manque 1 mètre là pour que ça passe. Donc comme quoi ça a quand même inspiré aussi des bénévoles et des présidents et des dirigeants ou des coachs de se dire ouais, faut y aller tranquille.
Ah, c'est beau, c'était pas les Charlotte Hornets après la draft de la Melo Ball par hasard, c'était pas eux qui t'avaient demandé ça.
c'était pas les Hornets, mais ils auraient pu. Ça fait 4 ans qu'ils écrivent le bouquin, voire plus.
Ouais, c'est bah, pour répondre à ta question, moi, Pierre, en fait, moi je crois que mes meilleurs souvenirs de basket, c'est quand même des victoires. T'allais chercher à l'arrache en défense en te mettant par terre finalement c'est plus ça je pense, des souvenirs de trucs de dureté où peut-être que t'as pas été bon mais finalement ton équipe a eu plus la dalle en fait, plus la volonté même contre des équipes plus talentueuses. C'est moi, c'est ça mes meilleurs souvenirs de victoire, c'est souvent ceux-là quoi. Après bien sûr si en plus t'as été bon et t'as mis tes paniers, c'est toujours un plus hein, ça bien entendu. Et pour ce que tu disais tout à l'heure Antoine sur les défaites, ouais, le pire du pire, c'est ça, c'est défaite et en plus t'as pas été bon quoi. Parce que des défaites où t'as été bon, enfin moi ça m'a jamais. C'est bien sûr t'es content, mais ça t'enlève pas la frustration et la rage d'avoir perdu quoi. Et alors que par contre, tu vois, par rapport à ce que tu disais, je pense que des victoires où t'as peut-être pas été très bon, notamment en attaque, parce que c'est quand même le secteur souvent qu'on contrôle le moins, mais où tu t'es donné, bah je trouve, enfin c'est plus facile d'avaler la pilule quand tu repars avec la victoire.
Mais c'était pas vraiment être bon ou pas être bon en fait. Moi, c'était plus vraiment réussir à se détacher d'être dans ma tête. Parce qu'en fait, on est d'accord, Pierre Armand, tu m'avais demandé ce qui me fait le plus kiffer en fait. Pas forcément.
C'est moi qui ai détourné la question.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et ouais. Du coup, c'est pour ça que en fait, c'était juste de se dire que j'arrive à jouer lâché et pas jouer dans ma tête, pas jouer en train de réfléchir. Parce que du coup, ça m'est arrivé de me lâcher et d'être nul, tu vois. Ça m'arrive évidemment, tu vois. Mais là, quand même, je prends quand même du plaisir, même en étant nul. Et puis généralement, en fait, quand on se lâche, on n'est jamais vraiment nul. En tout cas, bon, ça dépend pour qui, mais quand on arrive à se lâcher, on n'est pas complètement nul. J'imagine quand ça fait quelques années qu'on pratique quelque chose, on arrive à se débrouiller pas à peu près.
Et toi, Pierre, c'est quoi tes trucs qui te font le plus kiffer, toi ?
Moi, c'est le fait de retrouver les potes en sachant juste de que tu vas pas te prendre une branlée. Voilà, c'est déjà. Et que tu, même moi, j'ai pas la, que je suis comme toi, Antoine, j'ai pas la, j'aime bien, je vais tout donner sur un terrain comme tout le monde, enfin, comme j'espère la plupart des gens, mais si je perds, mais en ayant essayé, et puis qu'en face c'est trop fort, je vais plus être comme Anthony Edwards, tu vois, qui va dire, enfin, voilà, on a fait notre jeu, on s'est donné. Bon, c'est un match, et en face c'est trop fort, bon, c'est pas grave, au moins on a essayé, et on s'ajustera, on verra. Mais par contre, arriver certains entraînements et toi voir que t'es pas, moi ce que vraiment j'aime pas, c'est pas être sur le même pace que les autres, quoi. C'est-à-dire toi t'arrives, en effet t'as attendu toute la semaine peut-être ton entraînement, tu t'entraînes pas 3 fois par semaine, tu vois ce que je veux dire, t'es content, toi t'as envie de jouer, t'es au taquet, puis en face les gars avec qui tu joues, ils ont pas envie ou ils commencent à râler pour rien, enfin voilà, ça c'est relou, mais une bonne entente et une bonne ambiance, voilà, moi c'est ça qui me fait kiffer, c'est le fait de, moi j'ai pour l'instant là j'ai un entraînement par semaine, donc si quand t'arrives c'est t'arrives et que c'est gâché parce que il y en a qui ont pas envie, voilà, ça c'est chiant, mais par contre quand t'arrives et que tout le monde est déjà content de se retrouver, voilà, c'est l'essence même du sport collectif, c'est d'être content d'être ensemble, et même si tu as été un peu nul, voire complètement nul, c'est d'arriver en tout cas à te rappeler qu'à un moment donné, tu as intercepté un bon ballon qui a fait que ben, tu as pu lancer le gars qui partait en contre-attaque ou justement prendre les quelques pauvres rebonds que tu arrives à prendre avec ta taille, mais c'était peut-être celui qu'il fallait pour remettre au gars qui coupait ligne de fond. Voilà, c'est des petits plaisirs comme ça. Voilà, Mais mon Dieu, que ce sport est frustrant. Ça, il y a rien à dire. Et il y a pas beaucoup, en effet, à part le cyclisme peut-être et le golf, où tu peux écrire ça. Alors certes, ça peut s'appliquer à plein de sports différents, hein. Je pense qu'au foot aussi. Mais le nombre fait que la frustration se dilue aussi beaucoup. Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est peut-être le bouquin qui m'a le plus parlé depuis quelques temps. C'était bien cette saison en enfer qui m'a replongé dans mes pires cauchemars, autant que dans mes meilleurs souvenirs finalement. Donc c'est ça le truc, parce que toute cette frustration reste des souvenirs, sauf si t'es à un certain niveau et où, en effet, c'est au-delà d'un loisir. Mais quand c'est un loisir ou ton sport, tout simplement, tous ces moments-là restent gravés. C'est pour ça, rien que pour ça, voilà, c'est ça que je kiffe, moi. C'est tout ça. C'est je kiffe autant le bon que le mauvais, en fait. C'est parce que l'ensemble fait un tout et ça fait des bons souvenirs.
Je rigolais tout à l'heure quand tu parlais d'entraînement ou de séance où tu vas et puis finalement t'es pas sur la même longueur d'onde que les autres et tout. Et moi, c'est mon cauchemar, ça. C'est pour ça qu'à un moment j'ai même complètement arrêté, parce que là-dessus
Ouais,
je
c'est
suis taré, hein. Je peux être hautement désagréable, et en fait ce genre de truc c'est absurde, mais je peux rentrer chez moi après un entraînement où j'ai l'impression de pas m'être fatigué parce qu'on s'est pas donné, et pas m'endormir avant avant 3 heures du matin, être juste sur ma rage et ma frustration. Donc je vois très bien ce dont tu parles. Et côté frustration, ce qui est fou en fait, Antoine, c'est qu'on n'a même jamais joué au basket ensemble depuis le
ouais,
temps qu'on se
c'est
connaît.
vrai.
Je sais que tu as déjà joué avec Guillaume, il me
Eh ouais,
semble,
mais il nous invite pas au tournoi média.
mais
On
c'est
est
vrai ça.
tournoi média, il nous invite pas. C'est fou ça quand même. C'est quand même dingue.
C'est vrai,
Je
c'est
savais
vrai.
même pas qu'il y avait un tournoi média. Ça prouve la confiance que vous me faites, les gars. Vous n'en avez même pas parlé, quoi.
Nous on n'est pas invités non plus, mais je sais pas si ça existe encore. Mais à une époque, ça existait. Il y a des tournois média basket et t'es pas invité quoi.
Après,
Eh
on est,
ouais.
ouais. On est parfois un peu ours, faut le reconnaître aussi, hein. Rester dans notre coin par moment aussi. Hein. Limite, peut-être que Shai en a fait plus que nous, au bout du compte.
Cela dit,
Shai en a fait au moins un ou deux, je crois. Ah, c'est
possible.
possible.
Mais cela dit, pour les gens qui nous écoutent souvent, c'est vrai qu'on l'a dit l'autre jour avec Théo, on s'est nous rencontrés même pour la première fois il y a 3 mois. On est chacun un petit peu éparpillé à droite à gauche, mais c'est vrai qu'on devrait se faire une vraie rencontre de toute la team Rivers que vous voyez en photo pour tous les MOOC, réserver la Hoops Factory et jouer et enfin pouvoir se chambrer correctement derrière et de manière délibérée. Mais moi, Théo, j'aimerais savoir, est-ce que tu es plutôt du genre, quand tu es frustré comme ça, tu passes tes nerfs sur les gens qui jouent avec toi, un peu comme Erwan peut le faire, parce que c'est ce qu'il raconte tout le temps, et moi, ça m'éclate de rire. Il le disait encore dans l'émission avec Rémi l'autre jour, il avait passé un très mauvais moment. Parce qu'il avait perdu et qu'il avait eu un comportement assez limite une fois de plus avec tous ses coéquipiers, ses propres coéquipiers, pas ses adversaires. Toi, est-ce que ta frustration, pareil, tu la passes sur tes coéquipiers? Est-ce que tu es le genre à dire, ouais, mais lui, on a perdu parce que lui, c'est pas un joueur de basket, par exemple?
Non, je pense pas. Je pense pas. Par contre, bon, j'ai laissé l'empreinte de mes phalanges dans plus d'un mur de gymnase, donc c'est plus les murs qu'ont pris cher, mais normalement non. Après, bon, je pense pas en tout cas. Je m'avance pas, parce que tu sais, des fois, quand on est dans la frustration, on se rend pas compte de l'attitude qu'on a. J'ai cru comprendre que parfois je pouvais avoir une attitude plus menaçante que ce que je pouvais imaginer, mais non, je pense pas que ça soit. Que ce soit un de mes traits de caractère, par contre.
Et est-ce que du coup on peut avoir une suite à une saison en enfer où justement cette année, eh ben, on tombe sur la bonne année enfin, la montée se fait et où on vit l'année de la montée qui est jamais la meilleure. En plus, c'est un petit peu celle que tu vas vivre, Antoine, là maintenant. Tu vas pouvoir nous raconter ça bientôt ou tu feras plus une saison l'Eintracht Francfort que du Bayer Leverkusen. Donc tu pourras nous raconter ça aussi.
Ouais, faut réfléchir. C'est vrai que je fonctionne beaucoup à l'inspiration. C'est paradoxalement, c'est ironique, mais c'est moins prenant de raconter les trucs qui marchent bien. C'est pas normal, hein. Mais au final,
Bien
c'est un peu
sûr.
comme on le faisait pour le MOOC Loser, quoi. On aime bien les histoires de losers. On aime. Ça a toujours un certain charme. Une saison où tout se passe bien. C'est plus dur à raconter, quoi, je trouve. Mais il y a un potentiel de suite, que ce soit sous une autre forme, que ce soit avec une autre équipe, un autre truc, mais il y a forcément moyen, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le basket amateur, sur le sport amateur. Voilà, que ce soit même peut-être, je sais pas, via d'autres formats qu'un livre, s'il y a des gens qui sont intéressés pour en faire un film. On est ouvert aux idées, une série. N'hésitez pas à nous contacter. Mais non, il y a encore beaucoup de choses à faire autour du basket amateur. Et oui, peut-être qu'à un moment, il y aura un autre projet. Ouais, c'est pas exclure.
On parle de sport amateur, mais une saison en enfer. Il y a beaucoup d'équipes NBA ou de joueurs NBA qui en ont connu, en tout cas. On va se recentrer un petit peu sur la Grande Ligue. Quand on vous parle d'une saison en enfer, quelle serait l'équipe ou le joueur tout de suite qui vous vient à l'esprit, messieurs ?
Washington Wizards. C'est les nulos, quoi. C'est l'image pour
de
moi.
Cette année, pas forcément de cette année. Hein. Ça peut être ouais. All-time. Hein.
C'est ça. Mais c'est...
Ça marche aussi comme réponse, t'inquiète. Même quand ils n'étaient pas si nuls. j'aurais pu dire les Clippers, mais ça fait trop longtemps que ça a changé, tu vois. J'ai l'impression que les Wizards et les Hornets, c'est quand même une franchise cool, tu vois, même s'ils sont très nuls. C'est quand même été longtemps une franchise cool, ils ont des belles couleurs et tout. Pour moi, les Wizards, c'est vraiment l'incarnation de. Et je les ai aimés avec Gilbert Arenas. Hein, mais. Ah, c'est... Même le joueur que j'aimais bien chez eux, il a tellement mal vieilli que. Enfin, non, il est resté le même, mais juste on l'entend encore plus parler, quoi, c'est tout. Mais non, ouais, les Wizards, des couleurs au logo, tout ce que tu veux, pour moi, c'est la lose absolue, c'est vraiment.
Ouais, cette année, ouais, non, c'est dur. Moi, sur l'année, parce que c'est une franchise quand même qui est cool, mais Détroit cette année, c'était quand même bien, c'était bien ça, partir avec un projet jeune en te disant, même moi, j'étais hyper enthousiaste au début de l'année. Je me suis dit, ouais, ça va être cool, Détroit. Bon, ils vont pas être fort, mais ça va être intéressant à suivre. Au bout du compte, c'était vraiment l'année galère, quoi.
Toi, t'aurais dit qui, toi, Pierre?
On en a parlé dans les What If, dans les trucs comme ça, mais les Jailblazers, ça c'était une bonne saison de merde pour eux, alors qu'on les voyait bien, mais c'est vrai que c'était. Après, au niveau joueur, il y a des joueurs qui se sont fait des saisons en enfer, avec Klay Thompson qui se fait le ligament, puis le tendon juste après. Enfin bon, ça c'est. Pour lui, ça. C'est dur, ça, les saisons de Derrick Rose, on se rappelle, le retour, pas le retour, il revient, il se répète. Ça, mais bon, ça, c'est des cas un petit peu personnels, mais c'est vrai que, ouais, Détroit, Charlotte, avec les histoires en plus judiciaires et toutes ces histoires. Ouais. Mais après, il y a des saisons en enfer qui sont pas forcément. On parlait avec Théo il y a très récemment des Lakers de 2004, ouais, c'est ça, c'est ce 2000, ouais, c'est de 2004 contre Détroit.
Ouais.
Ouais, c'est pareil, une fois que c'est sorti, j'ai vu que c'était une sacrée saison pourrie de l'intérieur, quoi.
Ouais, c'est clair. Et juste pour refermer sur une saison d'enfer, je voulais replacer deux dédicaces, l'une pour Rémi Reverchon qui a signé la préface de ce bouquin, un de mes anciens coéquipiers, donc qui est hyper gentiment a signé une super préface d'ailleurs, et l'autre c'est pour l'illustrateur, tu parlais des illustrations Pierre, donc c'est Vladislav Lakché, mon laiton préféré, même devant Porzingis et Kaspar Skambala, qui est aussi voilà, l'artiste laiton plein de talent qui a signé la couverture du MOOC de Défense et notamment la couverture alternative qu'on a rajoutée pour ceux qui choisiront l'option cette option-là dans le pack. Voilà, un mec adorable avec un talent de malade. Je vous mets aussi le lien vers son Instagram dans la description. Vous allez voir ce qu'il fait. C'est moi qui suis incapable de dessiner autre chose que la tête de Toto. Ça me rend dingue de voir le talent de ce gars-là. Hyper, hyper sympa par ailleurs.
Qui avait aussi fait NBA Apocalypse d'ailleurs.
Oui, absolument. Ouais, absolument. Ouais, bah c'est un mec super. Donc ouais, merci à Rémi et à Vlad d'avoir été avec nous sur ce projet-là, je veux dire.
Skambala, c'est vraiment un nom de danse de l'été, tu vois.
Ouais, t'es un mec délicieux.
Exactement. Théo, on a un invité ce soir, enfin ce soir, ce matin, mais. Cet invité, il va falloir qu'il se plie aux rubriques de Hoop Culture. C'est pas très compliqué, hein. Mais coup de cœur, coup de gueule éventuel et relique. Et bah, Antoine, quel est ton coup de cœur de la semaine ?
Alors, le coup de cœur, c'était particulièrement dur parce que je vais pas rentrer en détail, mais je traverse une période particulièrement compliquée à vivre. J'ai vécu quelque chose de particulièrement compliqué ces dernières semaines. Dans des moments comme ça, c'est dur de trouver le sens de la vie et du coup, c'est dur de trouver un vrai coup de cœur, mais j'en ai quand même trouvé deux. Alors, c'est pas les coups de cœur que j'aurais adoré partager. J'aurais préféré trouver des meilleures séries, etc. Mais dans ce moment difficile, j'ai quand même pris un peu de plaisir à aller shooter dehors. Et du coup, je voulais vous partager une chaîne de basket d'un coach de shoot que je suivais déjà un peu avant, qu'il m'arrive ce truc-là, mais ça s'est amplifié maintenant. C'est Si Mike Dunn, il s'appelle Si Mike Dunn, pardon, donc SEE comme le verbe voir, Mike Dunn, Dunn. Je vous invite pour tous les, j'imagine que quand même parmi les auditeurs du Hoop Culture, il y en a qui jouent, il y a des pratiquants, j'imagine, et il y en a même peut-être qui ne sont pas pratiquants mais qui veulent progresser au shoot. Moi, je vous conseille ce mec-là. Je suis un dingue je suis un obsédé du tir au basket. J'adore travailler mon tir, j'adore shooter, bon, comme beaucoup de monde, j'imagine. Mais vraiment, pour ceux qui veulent perfectionner jusqu'au moindre détail leur shoot, je les encourage vraiment à aller regarder Si Mike Dunn sur YouTube ou sur Instagram. Et c'est mon coup de cœur parce que je trouve que c'est très bien expliqué, que c'est très intéressant. Donc voilà. Donc c'est un coup de cœur un peu non conventionnel, une chaîne YouTube, mais voilà, ça m'a plu et je vais citer le rappeur ZKR parce que ça m'étonnerait qu'un de vous deux voilà, comment dire, encourage à aller écouter un rappeur qui date des années 2020. Peut-être Pierre Armand, toi peut-être un peu plus que Théo, mais aussi le rappeur ZKR qui je trouve est un des meilleurs rappeurs français actuels. Donc voilà, c'est pas vraiment un coup de cœur récent ça pour le coup, mais je pense qu'il n'y a pas de moment pour inciter les gens à écouter ZKR, ça passe à n'importe quel moment. Voilà. Voilà pour mes coups de cœur.
Top, je vais aller découvrir ça, je connais pas du tout. Donc on vous met les liens comme d'habitude en description, mais je vais aller écouter ça avec plaisir. Pierre, t'avais des trucs? Ouais.
Théo, alors ton. Je dis, je te laisse la primeur de ton coup de cœur de la semaine.
Bah écoute, alors ça va faire vraiment auto-promo, mais moi j'allais remettre une couche sur le MOOC spécial défense parce que je suis ravi qu'on l'ait fini. Je vous avoue que je vais pouvoir redormir un petit peu et aussi parce que bah, c'est toujours un moment un peu particulier les bouclages qu'on est dans le speed. Voilà, les journées sont vraiment longues et en même temps c'est des moments où on est en t'as vraiment le sentiment d'être comment dire, dans les tranchées avec les autres. Donc c'est des moments qui soudent pas mal et ça fait plaisir de voir les articles finis. Enfin, moi je suis plus sur la partie texte, Guillaume plus sur la partie comment dire mise en page, Julien l'autre rédacteur en chef est aussi sur la partie des textes. Et quand on voit tout qui arrive ensemble et qu'on peut partager avec bah, les rédacteurs, les journalistes qui ont écrit les papiers, leur envoyer la version finale, c'est toujours un moment un peu particulier de voir cette. Comme vous savez, voilà, si vous avez déjà vu un reverse, il y a vraiment un aspect graphique qui est important. Donc, voir le produit fini, comme là ce matin, là, quand j'ai fini, là, Guillaume donc m'a envoyé le PDF final et j'ai pu regarder tout l'ensemble des articles qui s'enchaînaient. Et maintenant, j'ai hâte de l'avoir dans les mains. J'ai hâte que vous l'ayez dans les mains si vous le commandez et puis d'avoir vos retours. Mais je pense qu'il va être beau. Ouais.
On a hâte de voir ça. Ça va sortir. Quand est-ce qu'il va être, tu penses, livrable, voire livré?
Alors là, tout est parti chez l'imprimeur, donc les expéditions vont commencer la semaine du 10 juin. Donc voilà, le temps de la fabrication, de l'export, qu'on puisse récupérer ça et puis qu'on puisse commencer les expéditions, ça devrait partir à partir du 10 juin à peu près.
On attend ça avec grande impatience. Moi, mon coup de cœur de la semaine, alors vous avez certainement vu que la flamme olympique est passée par Marseille la semaine dernière. Et tout le monde a. Alors, moi, je trouvais ça plutôt sympa, mais beaucoup de gens ont hurlé parce que celui qui a allumé la flamme était le rappeur Jul sur Marseille. Moi, je vais vous parler d'un autre Jul, mais qui était là bien avant lui. Qui est auteur de bande dessinée, donc Jules qui est là, qui a écrit donc des bouquins comme Il faut tuer José Bové, qui est scénariste également de Lucky Luke depuis quelques années, qui a écrit Spirou et qui a fait des séries comme 50 nuances de grec qui est une encyclopédie des mythes et mythologies. Alors, vous avez donc l'explication d'un côté et ses dessins de l'autre, qui a sorti récemment avec Hector Alfonso une histoire du monde par la gastronomie qui s'appelle La fin de l'histoire. Et là, son dernier bouquin qui il raconte, il met en dessin en tout cas avec une jeune femme qui est médecin et qui s'appelle The Friends Radiologist, qui a créé un site Instagram pour raconter un peu son expérience de ses études de médecine et ses expériences tous les jours de médecin, radiologiste, urgentiste, etc. Donc c'est un bouquin où c'est à la fois pour les jeunes étudiants, mais aussi pour les parents qui souhaitent un jour inscrire leur gamin en études de médecine. Donc c'est plutôt bien foutu. Et puis Cocorico pour Jules, bien sûr, parce que on enregistre comme toujours cette émission plutôt dans la semaine, mais cette semaine il a monté les marches à Cannes puisqu'il sort le dessin animé de Silex and the City, sa série je crois qu'il y a déjà 9 tomes de cette série-là qui a été adaptée en dessin animé déjà sur Arte, que vous pouvez voir bien sûr sur le YouTube de Arte, je crois, tout est disponible gratuitement. Et un long métrage donc est sorti qui mêle à la fois dessin animé et film réel. Et donc c'est plutôt un événement parce qu'il y a souvent des films d'animation qui arrivent à Cannes, mais qui sont souvent assez lourds et durs, comme Persepolis, comme toutes ces choses-là qui parlent de la guerre, de choses un peu plus lourdes. Et là donc c'est à Cannes une comédie et en plus un dessin animé. Donc voilà, Jules qui monte les marches à Cannes avec toutes les personnes qui ont prêté leur voix à Silex and the City. Alors, les personnes qui prêtent leur voix à Silex, ça va de... Il y a tout le monde médiatique, on va dire, ça va de François Hollande à Léa Salamé, en passant par Augustin Trapenard, à énormément de grands acteurs qui viennent juste faire une voix pour cette série. Donc, si vous ne la connaissez pas, regardez le dessin animé, lisez-la, et le film qui sortira le 11 septembre prochain. La date est toute choisie, et Jules... Donc, dessinateur de presse, si vous l'avez connu par là, ancien de Charlie Hebdo également. Donc, voilà un personnage éminemment brillant, attachant et qui continue de travailler beaucoup, un petit peu comme nous.
Top. Alors, j'avais demandé à Antoine de préparer son coup de cœur. J'avais aussi demandé de préparer une relique. Tu m'as dit que ça n'avait pas été si simple que ça au bout du compte-y.
En fait, ce qui est relou, c'est que j'ai plus d'appartements que, je ne sais pas, choisissez votre... j'ai eu plus, parce que ne croyez pas que j'ai plein d'appartements. J'ai un seul appart. Je suis locataire, hein, et j'ai un seul appart, mais j'ai eu plus d'appartements que je ne sais pas quel journéeman a eu de franchise NBA. Du coup, ça, c'est frustrant pour moi, c'est que j'ai des vraies pépites, mais elles sont chez mes parents. J'ai des maillots de foot du début des années 2000, j'ai des maillots de basket du début des années 2000, j'ai des jeux vidéo encore, genre le CD d'Age of Empires 2, pour ceux qui connaissent, ou de FIFA 99. Bon, tout ça pour dire que chez moi, j'ai pas grand-chose. J'ai quand même un maillot, parce qu'on va représenter quand même un peu l'OL, de l'OL, floqué de Juninho. Donc voilà, c'est pour mettre en avant Juninho. Alors là, en fait, je triche un peu, parce qu'en
réalité... C'est quelle année, ça ?
Voilà, exactement. Merci, Pierre Armand. Merci de me mettre dans la 1. Parce qu'en réalité, j'en ai eu des maillots de Juninho très, très vieux. J'ai eu des maillots de Juninho de 2005 ou 2006, je pense. Là, celui-là, en vérité, il n'est pas si vieux. Il date de 2019, je crois. Sauf que j'avais fait floquer Juninho parce qu'on ne va quand même pas mettre un des mecs de l'équipe, de l'équipe actuelle. Enfin, même, il date quand même d'il y a 5 ans, je pense. Je l'avais acheté. Je me souviens, j'étais parti faire un reportage. On devait avoir Théo Malédon en interview. Et j'étais parti à Lyon pendant 4 jours. Et pendant 4 jours, la Svel, ils m'ont quand même fait poireauter. Tout ça pour que Théo Malédon, je le fasse au téléphone de chez moi à Toulouse à l'époque. Plus tard, mais pendant 4 jours j'étais à Lyon et tous les jours j'attendais qu'ils me disent ouais vas-y c'est bon, ouais vas-y c'est bon. Donc tous les jours j'étais à Lyon, je me baladais dans Lyon en attendant, et j'avais fini par craquer et par acheter un maillot de l'OL qui est mon équipe de cœur, mais c'est pas un maillot si vieux, donc c'est pas vraiment une relique. J'ai tenté de tricher, mais ça me permet de placer Juninho qui est un des rares, une de mes rares icônes de jeunesse. J'ai pas eu beaucoup d'icônes de jeunesse. Jamais été un grand mec idolâtre des gens, mais Juninho, c'était spécial, quoi.
Bon, et toi, Pierre, qu'est-ce que tu nous as sorti cette semaine ?
Alors, moi, je t'ai sorti puisque...
Ah ouais, carrément.
Alors, moi, tu connais le problème. Alors, c'est en fait, pour la petite histoire, et je passe le bonjour à mon pote Lionel, qui est un gros collectionneur de sneakers et qui régulièrement poste sur ses réseaux sociaux des images de ses paires de pompes qui explosent, tu sais, la semelle, elle se décolle et tout. en mettant un rest in peace bien senti. Et ce matin, il m'envoie une photo sur un groupe de potes là, en disant bon, bah, désolé, au revoir celle-là. Et une paire de chaussures qui est extraite de ce pack qui est là, qui était sorti il y a fort longtemps, je crois même que c'était 2008, quand Jordan sortait ce qu'on appelle des countdown packs. Alors, je vous l'ouvre. Et donc, moi, j'ai eu très, très peur. Du coup, je suis allé vite sortir les miennes pour voir si tout le monde se portait pour le mieux à l'intérieur. Tout va bien, je vous rassure, messieurs. Vous ne me posez pas de questions. Bande de chacals, mais tout va bien. Je vous déteste. Et en fait, alors, vous voyez quand même le packaging incroyable du truc. Et il y a un petit mot de la part de Michael Jordan lui-même. Je pense qu'il a écrit lui-même, il a tapé avec ses petits doigts. Pour dire merci d'être un ambassadeur Jordan, un plus loyal qui soit, et pour votre support depuis 23 ans. Et donc voilà, Mike me dit merci beaucoup, me remercie de lui avoir offert ses vacances depuis tant d'années. Enfoiré. Et donc tu avais donc ça comme ça. Et alors,
ouais. Ah, mais c'est dingue ce truc-là.
Ah, nice.
Alors là, tu avais un super packaging avec ici les 14 pompes de Jojo. Ça allait même jusqu'à 14, je crois. Non, mais jusqu'à plus que ça, jusqu'à 20, même jusqu'à 22. Voilà, donc ça part de 1 ici, que vous connaissez tous, jusqu'à 22 de l'autre côté. Et donc, à l'intérieur, alors à chaque fois, alors c'était pas une boîte surprise, hein, évidemment. Mais dans ce pack-là, tu avais donc deux paires qui étaient une paire de 11 et de 12, qui étaient des paires avec lesquelles il avait gagné des titres. Donc voilà, une 11 Bred et une 12 Taxi. Voilà, tout ça dans la même boîte. Donc elles vont bien. Elles étaient contentes de me voir. Ouvert la boîte. Je t'avais presque oublié. Mais voilà, non, c'était un super beau pack. Voilà, on savait bien faire les choses. À l'époque, parce que là récemment, j'ai acheté une paire de 4, la qualité était cataclysmique et ça m'a beaucoup énervé. Donc voilà, là, la qualité était au rendez-vous et c'est un vrai bel objet en tout cas.
Ouais, ça, l'objet a l'air complètement dingue.
Ouais, l'objet est superbe.
L'autre paire, c'est les taxis, ça que tu as dit?
Ouais, c'est ça s'appelait le coloris était le coloris taxi de la Jordan 12 qui était le tout premier coloris classique de quand une Jordan sortait, tu vois, avec le okay. Là-dessus, donc cette Jordan 12 que les gens connaissent plus pour le coloris noir et blanc, hein, noir et rouge, pardon, qu'il avait porté lors du fameux Flu Game. Mais voilà, ça c'est la paire qu'il porte au début de la saison, comme toujours.
Franchement, tu as sorti, elle est très belle. Parce que j'allais sortir une blague sur Marseille, Samina Seri, Taxi, mais je vais m'abstenir parce que ça serait trop honteux vu la qualité de la chaussure. Je la garde pour une prochaine fois, Pierre.
Tu peux l'arrêter tout de suite. Tu peux arrêter déjà. Déjà, Samina Seri.
Arrête-toi à Marseille. Ouais, Samina Seri, pardon. Arrête-toi à Samina Seri.
Antoine, il nous sort l'excellence lyonnaise. Il nous sort le Juninho. Et toi, Marseille, déjà, j'ai dit Jules tout à l'heure. Et maintenant, tu me sors Samina Seri. C'est-à-dire, faut voir. La plus belle chose qu'on ait à sortir à Marseille aujourd'hui, ça reste Shaimamou. Mais bon, en tout cas.
Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Ça sera répété. Déformé, mais ça sera répété quand même.
J'espère bien. Parce que j'ai pas fait exprès.
Bon allez, moi je sors ma relique. Alors, est-ce que récemment est sorti un nouvel album d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Gangrène? C'est producteur The Alchemist dont j'ai parlé plein de fois, et Ono dont j'ai parlé à plusieurs reprises aussi, le petit frère de Madlib qui est un producteur et un rappeur plein de talent. Donc ils ont sorti leur quatrième album que j'ai pas encore écouté parce que j'attends de mettre la main dessus pour bien me l'écouter, et j'en reparlerai certainement quand j'aurai eu la chance de l'avoir, qui s'appelle Heads I Lose, Tails You Win, ou l'inverse, un truc comme ça. Mais ils ont sorti trois albums avant et des EP, et moi j'ai celui-ci que je trouve terrible pour en grande partie pour l'objet. Regardez-moi un petit peu ce disque en forme de scie circulaire. C'est un EP donc de Gangrène. C'était quand ils étaient sur le label Décon. Et en fait, ce que j'adore dans ce disque, c'est qu'au-delà de la qualité du son, c'est que la scie circulaire fonctionne quasiment vraiment. Parce que si vous voyez à l'écran, ça a éclaté la pochette en fait, tellement les bords sont aiguisés. Donc voilà, ce EP de Gangrène qui est vraiment très très bon. Et en fait, ils en ont sorti plusieurs quand ils étaient chez Décon avec plutôt des visuels plutôt cool. Je suis pas forcément un fan des picture discs, mais ils ont sorti celui-ci avec avec le rappeur Rock Marciano que j'aime beaucoup, qu'ils ont appelé Greenberg, avec une face Rock Marciano, une face Gangrène, et puis un morceau commun aux trois sur chaque face. Et celui-ci qui est assez culte aussi, qui était sorti, je crois, pour le Record Store Day, avec une espèce qui s'appelle Auditorium, avec voilà, un picture disc avec des illustrations très années, je sais même pas, 19e siècle, vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter le dernier album de Gangrène. Moi, j'attends de mettre la main dessus pour l'écouter pour de vrai, mais voilà, celui-ci en forme de scie circulaire, c'est un de mes disques préférés pour le look. En tout cas, je le trouve hyper réussi.
Putain, Gangrène, c'est comme défense, il vaut mieux dire defense et gangrene à mon avis, parce que quand tu dis Gangrène, on dirait vraiment, on se croirait, tu sais, dans un festival de hard rock.
C'est vrai que j'ai ton honteux avec le Gangrène. Honnêtement, après, bon, je voulais pas le dire comme ça, mais c'est pour rendre hommage quand même à Antoine, qui est le grand spécialiste de la francisation des noms propres de franchise NBA. Bah, si vous aimez les Pistons notamment, écoutez le CQFR tous les matins, c'est bien.
Et puisque tu parles de picture disc et de disque marrant, moi je voulais juste te montrer celui-là. C'est la collab, le disque entre Akhenaton et Nicolas Craven. Un album de 10 titres qui est sorti il n'y a pas longtemps. Tu vois, il est encore tout scellé, qui s'appelle Latin Quarter Part 2. Dedans, il y a plein de super featuring. Il y a même Elodie Rama dedans. On avait déjà parlé. Et il y avait un petit bonus, puisque je sais que chez Rivers, vous aimez bien les bonus. Il y a une carte postale, tu vois, qui est là. Magnifique. Et en fait, cette carte postale se joue. C'est un vinyle, tu vois. Ouais, ouais, c'est un petit disque, tu vois.
C'est un flexi-disque, c'est ça ?
Ouais. Donc, c'était avec la pochette du disque et une photo des deux artistes. Alors là, elle est collée dans son petit plastique, mais il faudrait que j'arrive à te la sortir, voilà. Ah, voilà.
Magnifique.
Ah, ouais. Samurai Return Remix, tu vois, il y a le titre qui est derrière, hein, avec les crédits. Donc avec les éditions un petit peu japonaises, mais voilà, donc je trouvais ça, voilà, vous voyez bien ici le disque, donc c'était assez marrant par rapport à ce que tu nous montrais sur les picture discs, comme quoi ils savent encore faire des choses. C'est une édition limitée, hein, 172 sur 300.
Ah oui, super. Bah, je l'ai pas écouté encore celui-ci, mais effectivement, pardon, Nicolas Craven, la super producteur, et puis Akhenaton qu'on présente plus. Je sais pas qu'Elodie était dessus, je vais aller écouter ça avec plaisir.
Ouais. Ouais. Donc voilà, et n'hésite pas à écouter ça. Et puis voilà, cette édition qui est encore trouvable, hein, avec la petite carte postale chez certains disquaires marseillais. Donc si tu veux que je te passe commande, je vais te chercher ça avec le plus grand des plaisirs.
C'est bien noté. Bah, écoute, merci encore Antoine, hein, d'avoir fait le grand chelem. Effectivement, t'es deuxième membre après chat et avoir fait un grand chelem du lundi au dimanche en passant par le mardi soir, etc. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Si vous voulez si vous en voulez plus, c'est simple. C'est du lundi au vendredi, vous savez où trouver Antoine. Il est sur les antennes de Basket Session Reverse sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Pierre, c'était un kiff comme chaque semaine d'être avec toi pour cet épisode de Hoop Culture. Je vous souhaite une super semaine à tous les deux, une super semaine à toutes et à tous. Et puis, on se dit à très vite. De toute façon, on ne vous lâche pas.
Yes, merci beaucoup les gars. Ciao, ciao.
Ciao à tous.
Allez.